Tiens, est-ce que vous connaissez Laurent Vroomp avec un W ou Laurent Vrump? La prononciation de son nom varie si on le prononce à l'américaine ou à l'auvergnate, puisqu'on dit qu'il y aurait également officier. Drôle de personnage que ce Vrump, qui prend de plus en plus de place dans le paysage politique et dont certains doutent encore pourtant de l'existence. Je sais pas pourquoi, on connaît ses prises de parole, ses prises de parti qui sont relayées, de Washington au Puy-en-Velay. On sait son art de la parole sans filtre et sans filet d'eau tiède, sa défiance envers les médias, sa méfiance envers celles et ceux qui ne sont pas de chez lui. Ce qu'il préfère, Laurent Vrump, c'est la base, la terre, l'électorat populaire, et tant pis pour les grandes villes de France ou de Californie déconnectées du réel et de la vraie vie. Ça, c'est du Vrump tout craché. Et si vous n'arrivez toujours pas à mettre un visage sur lui, sachez que ses photos sont pas toujours très ressemblantes. Même si on peut noter quand même le soin qu'il porte à sa coiffure, à ses gestes, à ses habits, aux grandes dames de ses détracteurs, qui ne manquent jamais une occasion de rire de lui. Mais ça, il s'en moque totalement, Laurent Vrump. Et pour vous le dire, il vous le dira par le biais de tweets ou de tout autre média. Surtout, n'allez pas croire que je l'ai inventé, ce drôle de personnage. C'est pas du tout le genre de la maison. D'autant qu'avec les mensonges, fake news et autres fictions, Laurent Vrump ne plaisante pas. Avec lui, il faut être dans le vrai. Ça ne s'invente pas.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel personnage mon invité d'aujourd'hui perçoit-il dans le langage, la rhétorique, les images de ce fameux Laurent Vrump? Lui qui a érigé en art la faculté de parler des livres qu'on n'a pas lus ou des lieux où l'on n'a pas été. Trouvera-t-il quelque chose à dire sur cet Olibrius dont il n'a peut-être jamais eu vent? Son nouveau livre, un essai littéraire très sérieux et révolutionnaire à bien des égards, est sorti il y a quelques semaines et il s'attaque à l'une des plus grandes énigmes de la littérature mondiale, l'écrivain russe Tolstoïevski. Bonjour Pierre Bayard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, est-ce que vous aviez connaissance de l'existence de cet étrange personnage de Laurent Vrump qui, n'ayons pas peur des mots, défraie la chronique depuis quelques mois et donne du grain à moudre aux analystes politiques de tous bords?
Vous savez, un des socles théoriques de mes livres, c'est la théorie des univers parallèles, qui vient de la physique quantique et qui est défendue par toute une série de physiciens contemporains très sérieux. Nous ne sommes pas seulement là dans le studio de France Inter, suivant cette théorie, mais dans une multitude d'autres univers. J'ai l'impression que Vrump appartient à l'un de ces univers parallèles. Et vu certaines décisions qu'il prend, personnellement, je préférerais qu'il demeure dans l'un de ces univers parallèles.
Oui, et vous qui êtes d'abord professeur de lettres, Pierre Bayard, donc très attentif aux effets de langue, qu'est-ce que vous trouvez à dire à son langage, à ce Laurent Vrump?
Ce qu'il a de caractéristique, c'est qu'il est... Il est l'incarnation dans cet autre univers où il vit de notre langage, mais avec toute une série de traits caricaturaux, simplistes, etc. Et connaître ces univers parallèles qui nous environnent, ça peut être intéressant pour mieux comprendre le nôtre, mais peut-être aussi pour voir ce à quoi nous échappons ou, dans son cas précis, nous n'échappons pas.
Vous êtes du genre crédule, vous, Pierre Bayard?
J'ai fondé une méthode critique qui est fondée sur le soupçon. Et par exemple, j'ai écrit 3 livres que j'appelle des livres de critique policière, Qui a tué Roger Ackroyd, Enquête sur Hamlet, l'affaire du chien des Baskerville, dans lesquels je remets en cause, en doute, les affirmations d'un certain nombre d'enquêteurs et d'écrivains sur les criminels qui auraient réalisé certains forfaits. Donc toute une partie de mon œuvre est fondée sur la paranoïa, sur le soupçon, sur cette idée qu'on nous cache des choses et qu'on ne nous dit pas tout, en particulier dans les œuvres littéraires.
Mais pourquoi d'ailleurs, pourquoi je vous pose la question, Pierre Bayard? Parce que votre essai L'énigme Tolstoïevski fait preuve d'une clairvoyance absolument remarquable en démontant l'une des arnaques les plus scandaleuses de la littérature, disons-le tout de suite. Pourquoi, dites-le nous, a-t-on si longtemps et encore aujourd'hui douté de l'existence de Léon Fiodor Tolstoïevski?
Je crois que cette histoire est un symbole de ce que j'appellerais la paresse critique. Face à cette œuvre immense, qui est un véritable massif de la littérature russe, des dizaines de milliers de pages, beaucoup de mes confrères ont choisi la solution de la facilité.
Facilité.
Et l'ont coupé en deux. Pensez à George Steiner, l'un des plus célèbres critiques mondiaux, qui a écrit un livre intitulé Tolstoï ou Dostoïevski. Comme s'il fallait choisir à l'intérieur de la même œuvre entre différents auteurs de fiction.
En quoi c'est plus confortable de choisir deux plutôt qu'un seul?
D'abord parce qu'il y a moins à lire et c'est un graphomane, Dostoïevski. Il écrit vraiment chaque jour que Dieu fait. Mais aussi parce que quand on se penche sur son œuvre et sur sa vie, on se trouve face à toute une série de difficultés qui concernent la cohésion. C'est quelqu'un dont la vie est multiple. Comment faire coïncider le jeune libertin, amoureux, qui passe passe son temps aux tables de jeu avec le vieillard philosophe qui crée une école pour ses paysans. Comment faire coïncider ce jeune libertin avec l'anarchiste russe qui va être emprisonné pour avoir lutté contre le tsar? Le biographe n'arrive pas à faire coller ensemble les différentes parties de sa vie. Et le même problème se trouve avec l'œuvre. Comment le même homme a-t-il pu écrire des livres aussi différents qu'Anna Karénine et les frères Karamazov?
C'est un problème, ouais.
Donc, face à toute cette diversité, cette pluralité, certains critiques vont faire le choix tout simplement de couper l'œuvre en deux. Moi, je la rassemble, je rassemble les différents fragments de la personne et je fais ce qui est, je crois, à ma connaissance, le premier livre sur Léon Fiodor Dostoïevski.
Et certains critiques vont faire donc le choix, ma bonne dame, de nous mentir, même dans des domaines dont on pourrait penser qu'ils sont consacrés à la recherche d'une certaine forme de vérité. Depuis quand, Pierre Bayard, la fake news fait-elle loi en littérature ? À votre avis ?
Je crois qu'il y a en permanence en littérature des éléments de fausseté, de fiction. Et d'une certaine manière, je joue dessus, puisque j'introduis moi-même de la fiction dans la critique. Mais surtout, je procède à quelque chose qui s'appelle la critique interventionniste. Ce que je reproche à beaucoup de mes confrères, c'est de rester immobile face aux œuvres, d'être du côté de la réception, du commentaire, de l'admiration, de la philologie, mais de ne pas intervenir sur les œuvres. La critique interventionniste, elle intervient. Elle intervient, je le disais tout à l'heure, dans le domaine de la critique policière, en rectifiant les erreurs judiciaires. Mais elle va essayer aussi d'améliorer certaines œuvres, et même d'améliorer les auteurs. J'ai consacré un livre qui s'appelle « Et si les œuvres changeaient d'auteur ?» où j'ai étudié, par exemple, « L'étranger de Kafka » ou « Le cuirassé Potemkin Hitchcock » pour montrer comment une réattribution pouvait faire percevoir certaines œuvres sous un jour nouveau et donc profiter aussi bien à l'auteur qu'à l'œuvre.
J'aimerais qu'on revienne quand même sur cette théorie des personnalités multiples qui s'adresse dans votre livre, Pierre Bayard, aux Freudiens notamment. Qu'est-ce que vous leur reprochez ?
Je suis moi-même freudien et je pense que la psychanalyse est un modèle tout à fait pertinent. Simplement, il ne faut pas rigidifier les modèles. Il y a d'autres modèles possibles. Et il n'est pas évident qu'il faille le même modèle pour analyser toutes les personnes. La théorie des personnalités multiples, qui est au centre de mon analyse de Léon Fiodor Dostoïevski, a une histoire très intéressante parce qu'elle est née en France à la fin du 19e siècle et au début du 20e, à une époque où toute l'Europe cherche des nouveaux modèles, et pas seulement les psychiatres, les écrivains aussi. On sait à Stevenson, à Maupassant, on est tous à la recherche de modèles pour penser ce qui est devenu une évidence, l'autre en nous, le fait qu'il y a un continent que nous ne maîtrisons pas. Et la théorie des personnalités multiples, née en France, va être effacée par la victoire de la psychanalyse, qui fournit un modèle très intéressant, très pertinent, que nous utilisons encore aujourd'hui. Et elle va partir aux États-Unis, où elle va connaître un immense succès, aussi bien chez les psychiatres que chez les créateurs et que chez les Américains. Il y a des centaines de milliers d'Américains qui vont être étiquetés personnalités multiples, oui, au point que ce trouble de la personnalité multiple va rentrer dans le manuel officiel de psychiatrie américaine, qu'on appelle le DSM, et va être reconnu donc comme une affection clinique, au même titre que l'hystérie ou la paranoïa. Et ça va donner lieu à une multitude d'œuvres littéraires ou cinématographiques. Pensez à Psychose d'Hitchcock, qui est vraiment une représentation de cette théorie suivant laquelle nous hébergeons plusieurs personnes.
Vous avez plusieurs personnalités en vous, vous ?
Probablement, oui. Et j'ai été frappé. C'est une théorie qui m'a beaucoup frappé parce que j'ai rencontré, en particulier dans mon entourage professionnel, des gens qui, pour moi, d'un jour à l'autre, n'était pas la même personne. Et je me rendais compte que si je discutais avec eux, comme si simplement il y avait des variations, des troubles de l'humeur, aujourd'hui il est de bonne humeur, demain il est de mauvaise humeur, ça ne suffisait pas à entrer en contact avec eux. Et que le bon modèle, c'était de se dire que je n'avais pas en face de moi la même personne du jour au lendemain. De même que si vous allez dans un immeuble et que vous vous trompez d'étage, votre ami habite au troisième et vous tapez au quatrième, eh bien vous ne vous trouvez pas face à la même personne. Et je me suis rendu compte que ce modèle n'était pas forcément efficace avec tout le monde, mais permettait vraiment de comprendre certaines personnes et de nouer avec ces gens un dialogue fécond.
Et de se comprendre soi-même aussi, Pierre Bayard. Voilà pourquoi je vous pose la question. Quel acte irréparable ou juste inconsidéré avez-vous un jour commis sous la domination de votre personnalité la plus dangereuse?
Alors, une de mes personnalités commet des livres, avec lesquels l'autre n'est pas nécessairement d'accord. Le professeur n'est pas toujours tout à fait d'accord avec ce qu'écrit l'écrivain ou le critique. Voilà un exemple, mais c'est pas un exemple qui m'empêche de vivre, parce que j'arrive à les concilier. Et l'une des leçons de ce livre, c'est de dire aux gens qui sont multiples, ne vivez pas ça dans la souffrance, comme les personnages de Tolstoïevski qui vivent ça dans l'angoisse et la douleur, mais acceptez de reconnaître que vous n'êtes pas une seule personne, comme on peut le croire avec l'illusion du corps unique, mais plusieurs personnes.
Celle qui est mensongère et fictionnelle dans cette émission, vous la connaissez évidemment, Pierre, c'est la culture et son actualité retorse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 5 décembre ? Vendredi 8 décembre, évidemment, il disait malgré tout que la vie fut belle. L'adieu à Jean d'Ormesson débutera aujourd'hui à 10h30 par une cérémonie religieuse suivie d'un hommage national aux Invalides à Paris. C'est l'académicien Jean-Marie Roire qui prononcera l'éloge de son ami immortel. Puis c'est Emmanuel Macron qui lui rendra hommage dans un discours. Demain, la France rendra un hommage populaire, cette fois à Johnny Hallyday avec 500 motards sur les Champs-Élysées, à l'un comme à l'autre. Au revoir et merci.
L'arte di fare la pizza napoletana diventa patrimonio culturale dell'umanità.
Pizza va bien à Napoli. L'art du pizzaiolo napolitain, qui consiste notamment à faire valser la pâte dans les airs, est entré hier au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Une manière de reconnaître et de protéger ce savoir-faire culinaire qui associe chansons, sourires, techniques et spectacles, et qui remonte au XVIe siècle, pouvait-on lire dans le dossier de candidature Forza Napoli.
Un scandale ! Un scandale !
C'est ce qui s'appelle « Mettre un vent ». Après un début de polémique suite à une pétition qui demandait le retrait d'une toile du peintre Balthus représentant une jeune fille posant lascivement, le Met de New York a tranché, ce sera non. La toile titrée « Thérèse rêvant » restera à sa place. Elle appartient à l'histoire de la peinture européenne, a déclaré le musée. C'est noté.
When I'm reading a good book, a Beckett book say, which is grim, 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 but I don't come away thinking, oh, it's a, what an awful world. I think, my God, it's amazing this thing exists.
Il avait passé près de 30 ans à écrire son roman Le Tunnel, classique hors norme de la littérature américaine. L'écrivain William H. Gass s'est éteint hier, il avait 93 ans, géant des lettres, souvent présenté comme l'héritier de Faulkner. Gass restera comme un styliste obsédé par l'exploration des recoins les plus sombres de l'humanité. Le Tunnel est une grande partie, et une grande partie de son œuvre sont traduits dans l'excellente collection Lo 49 des éditions du Cherche Midi. R.I.P. Pierre Bayard, invité de Boomerang ce matin, et alors que pleuvent dans ma boîte mail des messages d'auditeurs tantôt furieux, tantôt abasourdis, je vous demande de lever avec moi le suspense quant à l'existence de ce drôle de Tolstoïevski, car ne vous en déplaise, Pierre, il n'existe pas.
Bah ça, c'est vous qui le dites. Hein. Non, je ne vais pas réitérer l'erreur faite par beaucoup de critiques avant moi, et je maintiens son existence. Vous pourrez d'ailleurs trouver une photo que j'ai retrouvée dans les archives russes. Vous savez, le livre pose une question qui est très intéressante, qui est la place de l'erreur en sciences humaines. On peut construire des théories justes à partir d'une petite erreur. Prenez l'exemple de Freud, qui va construire toute une théorie de la sublimation à partir de l'exemple de Léonard de Vinci. Avec cette idée que Léonard de Vinci n'a pas de relation sexuelle, toute son énergie passe dans son œuvre. La théorie de la sublimation est très intéressante. L'exemple est complètement faux parce que des décennies après, on va découvrir que Léonard de Vinci était exactement le contraire de ce que pensait Freud. Qu'il avait au contraire une vie sexuelle extrêmement active.
Et du coup,
la théorie
pas...
reste juste alors que l'exemple était faux.
Et du coup, ça devient une sorte de délire intellectuel, de délire théorique ? Non ?
Je crois pas. Je crois que si on introduit en sciences humaines, ce que j'essaye de faire, des éléments qui sont rarement introduits, comme l'humour, la déstabilisation, la science-fiction, le regard paranoïaque, on capte un certain nombre d'éléments des sciences humaines et de la réalité qu'on ne capterait pas autrement. C'est ça le pari de mes livres. Introduire une distorsion, en particulier par ce que j'appelle la fiction théorique.
C'est ça. Vous avez inventé ce terme de fiction théorique. Comment est-ce que vous le définiriez, ce genre, en fait ?
C'est un genre qui se situe sur la ligne de frontière entre la fiction et les sciences humaines. Normalement, dans la fiction, on peut inventer ce qu'on veut. Tandis qu'en sciences humaines, le narrateur correspond à l'écrivain. J'introduis un narrateur-personnage qui n'est pas moi-même, qui me ressemble, ce qui me permet de voir la réalité et les œuvres avec l'angle d'un personnage qui est un peu fou, qui est un peu paranoïaque.
En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est là où c'est assez génial, Pierre Bayard. Ce que vous nous dites, c'est qu'une théorie, aussi sérieuse et rigoureuse soit-elle, reste une fiction qui essaie de se faire passer pour la vérité. Une théorie, ce serait toujours une posture, voire une imposture.
Reprenons la théorie des personnalités multiples. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Moi, c'est une théorie qui me parle. Elle a conduit à des délires aux États-Unis. Vous savez, ce qui l'a finalement fait chuter aux États-Unis, c'est le fait que les avocats s'en sont emparés. Parce qu'à partir du moment où vous admettez cette théorie dans les manuels de psychiatrie, il n'y a pas plus de raison que vous payiez les crimes commis par quelqu'un que vous hébergez oui. que de payer les crimes commis par votre frère ou votre voisin. Et donc les avocats s'en sont emparés et ont même obtenu des acquittements grâce à cette théorie. Alors, est-elle idiote ou pas? Je crois que si on la considère comme un modèle poétique, comme la psychanalyse, c'est-à-dire une manière d'essayer de se représenter notre psychisme, elle peut être considérée comme parlante et elle n'est ni vraie ni fausse. Elle est utile, je crois, avec certaines personnes.
Ça voudrait dire que l'analyse littéraire que vous pastichez quelque part dans ce livre, est-ce que ça a encore un sens, l'analyse littéraire pour vous?
Oui, je crois.
Un sens poétique, en fait.
Oui, je pense surtout aujourd'hui où le livre est en régression, les textes surtout sont en régression. Montrer ce qu'il y a d'important dans les textes, mais aussi introduire de la création est fondamental. La critique que je propose, avec d'autres, c'est une critique de création, qui ne se contente pas de lire, de regarder les œuvres, mais qui propose d'inventer soi-même, de devenir soi-même un créateur, ne serait-ce que pour mieux apprécier le génie de ceux sur lesquels nous travaillons.
Parce qu'un texte, Pierre Bayard, on peut lui faire dire ce qu'on veut.
Alors, c'est la question du délire, et ce que j'écris est souvent au bord du délire, et si on le prend complètement au sérieux, on rate ce que j'essaye de montrer. Le narrateur-personnage, par exemple, d'un livre qui a beaucoup marché, Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, se vante de ne jamais lire, il déteste la lecture.
Alors qu'on comprend bien quand on lit votre texte qu'il les a tous lus.
Vous, oui, mais d'autres ne l'ont pas vu, parce qu'on n'a pas l'habitude, je crois, en sciences humaines, d'une écriture plus littéraire, d'une écriture qui ne dit ni le vrai ni le faux, mais qui fait appel à l'intelligence du lecteur en proposant différentes hypothèses.
Qu'est-ce que c'est la vérité pour vous, Pierre Bayard? Et c'est autant à l'écrivain qu'au professeur et au psychanalyste que je m'adresse ici.
Je crois que la vérité en littérature est totalement différente de la vérité en histoire. Moi, les délires que je propose, les délires fictionnels, le jeu, je ne me permettrai pas de le faire avec l'histoire. Donc je pense qu'il y a des modes de vérité différents, mais la littérature, l'art, est un espace dans lequel la vérité est différente. Vous évoquiez tout à l'heure l'affaire Baltus. Si la littérature ne se permet pas d'aller au fond de l'horreur, de la folie, qui va le faire? Mais on est dans un espace qui est très particulier, qui est celui de la littérature et de l'art, qui n'est pas l'espace du monde réel.
Je vous propose de prendre quelques minutes, histoire de méditer quand même sur la vérité, et de nous replonger dans une atmosphère russe, tiens, c'est la moindre des choses, en hommage à Tolstoïevski. Rien de mieux que Kate Bush, qui défiait tous les codes et les conventions de la pop quand elle chantait Babouchka en 1980. Vous êtes sur France Inter avec Pierre Bayard, vous écoutez Boomerang. She couldn't have made a worse move. She sent him seductive letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter. Before she freezes down here.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
En vrai, il est beaucoup moins babouchka que Dracula. Grand et pâle, le cheveu noir clairsemé, le regard un brin inquiétant, le sourire quelque peu carnassier dans lequel on pourrait s'attendre à voir pousser de longues connottes en forme de pique à glace. Mais qu'a-t-il fait de sa cape à revers rouge sang, de sa chemise à jabot virevoltant, de son haut col à midonné et plongeant? Il est venu en tenue de civil, ce matin pas romanesque pour un sou, tout en bleu marine et gris, Pierre Bayard, invité de Boomerang, ce matin pour l'énigme Tolstoïevski, un essai de fiction qui nous plonge dans l'univers flamboyant de la littérature russe. Et je me pose la question, comment est-ce que vous avez découvert cet univers littéraire, le roman russe du 19e siècle, vous ?
Parce que j'étais à la recherche d'une œuvre qui permette de mieux expliquer la théorie des personnalités multiples. Et les personnages de Tolstoïevski l'expriment très bien dans la souffrance que procure leur non-reconnaissance qu'ils sont multiples.
Vous aviez la théorie avant le corpus.
Les deux sont nés ensemble. Pensez à ce personnage du nouvelle qui s'appelle Le Diable, qui est divisé entre deux amours différents. Il expérimente le polyamour. Il aime une paysanne et il aime aussi une femme de sa condition. Il n'arrive pas à comprendre comment on peut aimer deux personnes en même temps, parce qu'il ne dispose pas de cette théorie. Et il va se suicider devant la souffrance d'être passionnément épris de deux personnes. Alors qu'il n'a pas de problème psychologique réel, il a un problème d'organisation de son emploi du temps. La paysanne se moque de savoir s'il épouse une femme de sa condition, et vice-versa. Et vous avez énormément de personnages chez Tolstoïevski qui souffrent de cette non-reconnaissance du fait qu'ils sont multiples, qu'ils sont plusieurs personnes, et non pas simplement une personne divisée entre différentes tendances.
Et puis il y a la passion, Pierre Bayard, le désamour, la destruction, qui sont des éléments présents aussi bien chez Tolstoï que Dostoïevski. Est-ce qu'on peut parler, pour vous, de l'existence d'une supposée âme russe, si tant est qu'elle existe, qu'elle ne soit pas elle-même une fiction?
Non, je crois que cette multiplicité, elle est commune à de nombreuses cultures. Comme je vous le disais, c'est aux États-Unis que la théorie des personnalités multiples a eu le plus de succès. Mais Tolstoïevski l'exprime très bien. Pensez à ces personnages qui se détruisent eux-mêmes. Et ça, c'est un paradoxe auquel Freud s'était trouvé confronté. Comment puis-je être à moi-même mon pire ennemi ? Pensez à Raskolnikov, cet étudiant qui commet deux meurtres, personne ne le soupçonne. C'est lui-même qui va aller à la police accumuler les indices contre lui-même. Comment expliquer ces comportements, ces moments de notre vie où nous sommes notre propre bourreau ? La théorie des personnalités multiples explique beaucoup mieux que la théorie de la pulsion de mort chez Freud. Nous nous comportons comme notre propre adversaire parce que nous sommes plusieurs. Une personnalité dominante agressée par d'autres personnalités.
Mais c'est pas innocent quand même que Tolstoïevski soit russe. Si.
Alors je me méfie un peu des stéréotypes. Je crois que c'est une œuvre qui exprime très bien cette théorie, mais qu'on la rencontre dans de multiples cultures et qu'il ne faut pas se limiter à la littérature russe. Je crois que la littérature américaine, par exemple, et surtout la réalité clinique américaine, a montré que c'était une théorie pertinente sur de multiples cultures.
Mais ce que je vais vous dire, ce qui me fascine, c'est que quand on vous lit, quand on lit cet essai, Pierre Bayard, on comprend que la littérature, pour vous, c'est un lieu où on apprend sur soi et sur la nature humaine, à travers les livres. Donc, quel lieu d'apprentissage est-ce que c'est pour vous, personnellement, le roman ?
Dans la vie quotidienne, la littérature peut nous être utile. Je vous parlais tout à l'heure de cette métaphore de l'immeuble. Moi, il m'arrive souvent, grâce à cette théorie des personnalités multiples et à Tolstoïevski, d'arrêter tout net une conversation que j'ai commencée avec quelqu'un. Parce que je me rends compte que je n'ai pas frappé à la bonne porte. Si vous vous trompez d'étage, vous allez dire « Oh, excusez-moi ». Et moi, ça m'arrive dans la vie courante, parce que je me rends compte que je n'ai pas le bon interlocuteur à l'intérieur de la personne, et qu'il faut que je revienne le lendemain. Voilà un exemple très concret de ce que la littérature nous apprend dans notre vie quotidienne.
Un modèle d'intelligibilité de la vie.
Oui. Je revendique par exemple une modification du langage dans le livre. On parle beaucoup aujourd'hui d'écriture inclusive, je suis tout à fait d'accord, mais il faut aussi intégrer cette dimension de multiplicité. Je crois que nous avons intérêt à dire « nous » plutôt que « je », c'est-à-dire à montrer aux autres que nous sommes des groupes en train de dialoguer avec des groupes et non pas des personnes individuelles en train de dialoguer avec des personnes, comme nous le fait croire l'illusion terrible de ce corps unique.
Un livre comme « La recherche du temps perdu » de Proust, Pierre Bayard par exemple, que vous proposiez de réécrire en supprimant les digressions, qu'est-ce qui vous a appris ?
Proust est avec Freud un des livres qui en permanence m'apprend, en particulier parce que Proust propose un modèle qui est très proche du modèle américain des personnalités multiples. Nous sommes, ne cesse-t-il de dire, une multitude de moi. Il y a des passages magnifiques dans le deuil, à propos du deuil, dans lequel il explique qu'il faut prévenir successivement tous les moi qui nous constituent. Donc il y a des modèles psychiques très intéressants chez Proust.
À vous entendre, la plupart des grands écrivains ont théorisé avant l'heure cette multiplicité en nous.
Oui, puisqu'ils ont réfléchi sur l'autre en soi, sur la diversité, sur le fait que nous ne sommes pas un, comme, encore une fois, l'illusion du corps unique nous le fait croire avec tous les déboires auxquels cela nous conduit dans la communication avec les autres, comme dans la communication avec nous-mêmes.
Il se trouve, Pierre Bayard, que vous nous avez préparé un texte qui s'intitule « Ulysse et le temps perdu », où vous vous interrogez sur la pertinence de la création d'œuvres valises. Qu'est-ce que c'est une œuvre valise, avant toute chose, peut-être ?
Ce serait une œuvre constituée de plusieurs autres œuvres, dans un souci de création, je le disais tout à l'heure, mais aussi dans un souci d'économie. On nous demande aujourd'hui de faire des économies, les écrivains sont aussi des citoyens.
Alors vous écoute.
Si l'intérêt de travailler sur des écrivains valises, comme Léon Fiodor Tolstoïevski, n'est plus à démontrer, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas d'étendre le principe aux œuvres littéraires, et donc de créer des œuvres valises. Ce procédé a déjà été utilisé avec profit sur des unités textuelles réduites. Prenons deux proverbes bien connus. « Qui veut voyager loin ménage sa monture » et « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Prises séparément, ces deux formules banales n'ont guère d'intérêt. Alors qu'elles en prennent un quand on se donne la peine de les réunir. Surprenant au premier abord, le nouveau proverbe « Qui veut voyager loin, vole un bœuf » se révèle à l'analyse plus profond qu'il n'y paraît. Il pose en effet la question, chère à Emmanuel Kant, de savoir quel prix, le bœuf, on est prêt à payer pour réussir, voyager loin. Il engage en fait toute une série de débats complexes autour de l'éthique des principes et de l'éthique des conséquences. Essayons d'étendre le procédé aux œuvres littéraires. La réunion de l'œuvre majeure de Proust et de celle de Joyce, Ulysse et le temps perdu, pourrait se faire de différentes manières. L'une d'elles consiste à intercaler des extraits d'Ulysse entre les chapitres de la recherche. Ainsi, un narrateur perdu dans Dublin, attentif au moindre mouvement de sa conscience, laisse-t-il par moments revenir en lui les souvenirs de son enfance à Combray. L'œuvre nouvelle, en juxtaposant l'expérience du présent et celle du passé, fait coexister avec audace deux temporalités contradictoires qui se mêlent inextricablement en s'enrichissant l'une l'autre. Le coup de génie de l'écrivain ne consiste pas seulement dans l'intrication de ces deux temporalités, mais dans l'invention de deux types opposés de langage. Un discours structuré en longues phrases pour montrer comment reviennent lentement à l'esprit, comme des banderoles qui s'étirent, les souvenirs enfouis du passé. Et un discours en apparence confus, mais proche des intermittences de la pensée, pour dire cet afflux désordonné des sensations qui constitue notre conscience. Ces œuvres valises, dont nous pourrions à l'infini enrichir le patrimoine littéraire, ont le mérite de mettre en valeur la manière subjective dont nous percevons les textes, en y intercalant à notre insu des fragments de fantasmes, de rêves, d'autres textes. Admettre officiellement leur droit à l'existence n'est jamais que reconnaître les droits du lecteur dans sa réception des productions esthétiques à la création et à la rêverie.
Merci tellement, Pierre Bayard, d'être venu faire un tour dans Boomerang ce matin à la gloire de la lecture, on l'a compris, de la création et de la rêverie, comme vous le disiez. Je rappelle que l'énigme Tolstoïevski est publié aux éditions de Minuit et j'invite par la même occasion tous les auditeurs à se replonger dans votre œuvre. Depuis comment parler des livres que l'on n'a pas lus, à comment parler des lieux où l'on n'a pas été, en passant par comment améliorer les œuvres ratées, j'en passe, et des meilleurs tout de suite, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça.
Tu veux attendre qu'on se lance en...